Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Étoile Polaire. Je suis avec Pierrick.
Salut.
Et avec Rémi.
Bonjour, bonjour.
Fred n'est pas avec nous aujourd'hui. On l'embrasse quand même.
Fred.
On espère le retrouver quand même la prochaine fois. Au sommaire de l'émission, je vais commencer par le ciel ce soir. Je vais parler de la constellation du grand chien. J'allais dire de Sirius, c'est l'étoile principale du grand chien. Ensuite, Rémi nous parlera.
Bah alors ouais, d'une soirée
type. Un petit tuto, voilà.
Ouais, une description d'observation, d'astrophoto.
Comment se préparer.
Organisation de soirée, ouais. Voilà.
Et puis Eric.
Et
après la pause musicale.
Ouais, après la pause, et ben, je parlerai de recherche de vie intelligente dans l'espace.
Cool. Alors je commence avec le ciel du soir. Le ciel du soir, en fait, les planètes ne sont plus là, Jupiter et Saturne ne sont plus là. Et au petit matin, pour les plus matinaux, on a Vénus et Mars en dessous, très faiblement, à 6h, 6h30, dès que le jour se lève, on ne la voit plus, évidemment. Et à l'inverse, l'étoile la plus brillante du soir en ce moment, qui n'est pas Vénus du coup, c'est Sirius en ce moment. On m'a demandé dans la semaine... C'est quoi la première étoile que je vois le soir à l'est? C'est donc Sirius, à côté d'Orion, en dessous à gauche d'Orion. Sirius qui est l'étoile principale donc, du Grand Chien. Mmh. Une assez grande constellation, pas une des plus faciles à trouver. Il y a quand même beaucoup d'étoiles brillantes dedans. Mmh. Pour voir l'entièreté, c'est plus délicat. Et Sirius, c'était donc, dans la mythologie grecque, le chien de chasse d'Orion. Puisque Orion est un chasseur. Il y a eu d'autres histoires, évidemment, dans la mythologie grecque, parce que ça se renouvelait tout le temps. Mais voilà, c'était un chien de chasse. Et c'est le Canis Majoris, parce qu'il y a aussi Canis Minoris, le Canis Mineur, le petit chien, qui est un petit peu au-dessus. Et alors là, pour le voir, il faut vraiment être fort, puisqu'en fait, c'est deux étoiles. Même sur les cartes du ciel, la constellation, c'est deux étoiles. Mais une étoile remarquable quand même, c'est Procyon. Voilà, une autre étoile brillante, juste au-dessus de Sirius. Si vous y voyez un petit chien, vous faire un dessin, vous l'envoyez à Astro Erdiwa, à Proton Mail.
Voilà. Ouais, Sirius, étoile la plus brillante du ciel du sud, de l'hiver, pardon. Ouais.
De l'hémisphère nord, sur l'année. Ouais.
Ouais.
Elle est détrônée ensuite que par des planètes. Quoi. À l'occasion, Vénus, Jupiter, la Lune, bien sûr. Voilà.
Deux objets remarquables dans Sirius.
Oui, les objets remarquables, bien sûr. Mais c'est le grand terrain de jeu des amas ouverts, enfin des amas d'étoiles en général. Il y a quelques amas ouverts. Il y a M41, je crois, l'amas de la ruche, qui se trouve au milieu du corps du chien. Sirius, c'est la tête à droite, et on a le corps qui part sur la gauche.
Voilà. Ouais, et puis plus à l'est, il y a le casque de Thor, là, une
nébuleuse vraiment chouette aussi. Ouais,
ouais, assez remarquable, magnitude assez faible, mais ouais. Très jolie en photo, très petite,
ouais.
Mais très belle, ouais, qui fait penser à un casque de soldat.
Un casque ailé, comme Astérix.
Ouais. Casque ailé, ouais, tout à fait.
Ou un casque à cornes, ouais.
Et puis à côté, la nébuleuse de la Mouette, très grande envergure, ouais. Hein, qui a plusieurs minutes d'arc.
On a l'amas du cœur, je crois que c'est ça, il y a un autre mot, je ne sais plus, l'amas du cœur qui est un petit peu au-dessus de Sirius aussi, en remontant vers le petit chien justement.
Belle région, assez basse mais...
Oui, c'est l'occasion là, jusqu'au solstice d'en profiter. Ouais.
Ouais, profitez-en, il y a toujours un beau ciel en ce moment.
Oui, ça c'est vrai que on n'a pas d'actu à proprement parler, par que... Il fait très beau en ce moment, on a des super ciels.
Ouais.
Et c'est chouette. Hein. Ouais. Même à l'œil nu, bien sûr. Mm-hmm. Il fait doux, même la nuit.
Oui, c'est vrai. Il fait plus moins 10, ça fait du bien.
Ouais. C'est pas si humide, c'est praticable, disons.
Voilà pour le ciel de ce mois de mars. Je te laisse le micro.
Merci, Axel.
Rémi.
Eh bien, ouais, moi je voulais en profiter pour. Parler un petit peu du déroulé un peu type d'une soirée d'astrophoto. Il y a aussi beaucoup de choses valables en visuel. quant à la préparation, la gestion du matériel, tout ça. Parce que du coup, voilà, les deux derniers week-ends, il y a eu quand même un bon ciel de bonnes conditions, une lune, nouvelle lune, quoi. Donc, c'était assez idéal.
On rappelle que c'est bien d'avoir de pas être à la pleine lune pour observer les étoiles, parce que la lune éblouit.
Oui. Ouais.
Éblouit la vue, cache les étoiles. Et que le mieux, c'est quand il y a un petit croissant.
Voilà, un mini croissant début de soirée, c'est. C'est toujours agréable à observer.
Il y a quelques jours, quand le croissant était très très fin,
c'était
très beau. Il y avait Uranus juste au-dessus de la Lune, elle servait de jalon pour opérer Uranus. J'ai pas tenté l'aventure, mais ça m'étonnerait qu'on la voie à l'œil nu avec un instrument.
Ouais.
Quand on sait où elle est, le plus dur, c'est de la trouver. Elle est vraiment petite.
La reconnaître par
Et là, la Lune servait de repère. Voilà.
Et on voyait bien aussi la face obscure de la Lune, une cendrée.
La lumière cendrée, on appelle ça. Quand on voit le reste de la Lune, quand juste un petit croissant est allumé, et qu'on voit tout le disque quand même, c'est la lumière cendrée, c'est la lumière qui frappe la Terre et qui se reflète sur la Lune, et qui nous revient ensuite. Ça suffit à distinguer cette partie. Ouais. À quelques moments du cycle lunaire, on peut voir ça.
Première montée de lune assez agréable à regarder. Ouais. Donc du coup, voilà, moi je voulais commencer un peu dans l'organisation, dans la projection, si on veut faire une soirée d'astro, par quoi qu'on commence, quoi. Donc on en parlait, la météo, c'est la première chose que je mets en avant, c'est-à-dire que si la météo elle est instable, s'il y a un gros taux d'humidité, s'il y a de la pluie en prévision, des nuages, on va peut-être revoir un autre programme.
Ouais.
Mais s'il n'y a pas de lune, que ça annonce ciel clair, ciel dégagé, et après, il ne faut pas écouter tout ce que disent tous les bulletins météo. Là. Il faut aussi regarder au coucher du soleil comment est le ciel et comment ça nous paraît. Quoi. Parce que entre le début et la fin de la nuit, il peut se passer pas mal de changements météorologiques, surtout dans des vallées. Il peut y avoir une brume qui s'installe. Pas forcément dû à des nuages qui bougent avec des vents météo. Donc, assez régulièrement, ici, on a quand même 2-3 heures exploitables au coucher du soleil, au début de la nuit. Et après, ça se gâte, quoi. Voilà, ça se gâte, ça s'obscurcit. Enfin, voilà, c'est. Donc voilà, météo, ça c'est assez important à mon goût, parce que voilà, passer une soirée à monter le matériel, à tout ça, à chercher, c'est plus frustrant qu'autre chose quand on n'a pas une bonne météo. Voilà, après il y a le choix du spot, c'est-à-dire où c'est qu'on va aller pratiquer, quoi. Qu'est-ce qu'on va pratiquer? Est-ce qu'on veut s'allonger dans un transat, regarder à la une les étoiles, est-ce qu'on veut être aux jumelles, est-ce qu'on veut être au télescope, est-ce qu'on veut faire des photos, voilà. Il y a différentes manières de pratiquer l'astronomie. En tout cas, moi, ce que j'ai retenu, c'est que c'est intéressant d'avoir un dégagement sur la partie sud du ciel, principalement sud-sud-est, étant donné qu'on va observer des nouveaux astres qui se lèvent à l'est, et que tout ce qui va se coucher à l'ouest, c'est ce qui aura apparu les mois précédents. Et le ciel du nord, c'est un ciel qu'on voit beaucoup plus, nous, à nos latitudes, quoi. Donc, voilà, le choix du spot, c'est assez important. Après, on fait aussi avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a, quoi. On va pas forcément faire une heure de route pour aller faire de l'observation. Si on a un bout de jardin, on va se mettre au point stratégique. Voilà, pour ce qui est de l'emplacement. Après, je trouve ça important, avant de commencer une soirée d'astronomie, de cibler un peu les objets qu'on a en objectif, quoi, à observer.
En photo, c'est d'autant plus vrai, je pense.
Bien sûr, ouais, parce qu'en plus, on va faire une photo pendant toute la nuit sur le même objet. Donc, c'est important de déterminer l'heure à laquelle l'objet se lève dans le ciel, à laquelle il va passer le méridien, l'axe nord-sud, et à laquelle il va se coucher. Quoi. Ouais, voilà. Donc auquel cas on peut aussi combiner en photo à faire deux objets dans la même nuit. Et parce qu'un objet se couche, un autre se lève, voilà. On s'arrange quoi. Donc ça c'est... ouais, je trouve que c'est bien de prévoir un peu ce qu'on va faire, ce qu'on veut voir. Sur les cartes on a accès à beaucoup d'informations. Voilà, pour pas se retrouver à perdre du temps, parce que finalement une nuit elle passe vite quoi. Voilà, donc se repérer un petit peu dans le ciel avant de commencer. Voilà, après dans la checklist, un peu plus spécifique photo, quand on utilise une monture équatoriale, voilà, bah, on va mettre un trépied en place, on va le mettre de niveau, on va mettre en station la monture. Donc mettre en station, on rappelle, c'est s'aligner
à l'axe nord-sud.
À l'axe nord-sud, du mieux qu'on peut. Voilà, tout en rappelant que l'étoile polaire n'est pas tout à fait au nord, il y a une différence de l'ordre de 20 secondes d'arc, hein. C'est assez minime, mais c'est ce qui fait que la monture sera parallèle avec l'axe de rotation de la Terre et donc pourra occasionner un suivi. Et donc des photos à pose longue sans que les étoiles forment un filet quoi, sur l'image. Voilà la mise en station. Après quoi, le support d'accueil de l'optique, il est prêt, donc c'est le moment de venir accrocher le télescope sur la monture. Voilà, gérer un petit peu tout le câblage, là, s'il y en a à faire pour de l'appareil photo, pour de la connexion à un ordinateur, des choses comme ça, ou simplement une télécommande qui fait bouger les moteurs, voilà. Après quoi, on va faire l'équilibrage. Sur une montée équatoriale, on fonctionne avec des contrepoids, à l'opposé de l'optique, pour que le télescope soit fluide en toute position, dans tous les mouvements. Voilà. Ça veut dire que notre dispositif, il est prêt à fonctionner, quoi. On est prêt à observer. J'oubliais, dans les premières étapes, l'étape de collimation, donc l'alignement des miroirs. Pour préparer un télescope type Newton, si on observe à la lunette, ben, y a pas besoin, mais tout ce qui est télescope à miroir, ben, on va s'assurer qu'il est bien collimaté, que les miroirs soient bien alignés, pour pouvoir profiter un peu au mieux de la qualité visuelle. Quoi. Après quoi, ben, soit on est à l'oculaire, et puis ça y est, c'est parti, on peut cibler des objets... observer, faire du suivi à la molette, faire du suivi avec des moteurs. Ou alors, quand on fait de la photo, là, c'est le moment de faire la mise au point. Donc, on choisit l'orientation de l'appareil photo dans le porte-oculaire et on fait la mise au point, laquelle on ne touchera plus jusqu'à la fin, étant donné que, peu importe les objets qu'on va observer, la mise au point reste la même, plus ou moins à l'infini. Oui. Voilà, après... quand on en est là, on choisit notre cadrage, quel objet on a choisi, de quelle manière on veut le photographier, en essayant de s'inspirer un peu de certaines références, quoi. Après, on peut faire des pauses pour essayer, des réglages de sensibilité, de temps de pause, tout ça. Comme avec des oculaires, on peut essayer plusieurs grossissements, plusieurs filtres, voilà. Voilà, arrivé là, entre le moment où on a commencé la soirée et puis le moment où on est arrivé là, il peut se passer généralement une heure et demie. Voilà, le temps de s'installer, le temps de régler le télescope, de monter le matériel, que les yeux s'habituent aussi à l'obscurité, que la nuit se couche, parce que c'est aussi un moment... bon, moi je préfère toujours monter le matériel de jour, quoi.
Ouais,
si on veut,
oui, c'est sûr.
tant qu'à faire. Après, bon, ça m'est arrivé de monter le matériel à la tombée de la nuit. Voilà. Mais bon, c'est... Il y a toujours ce moment-là entre le coucher du soleil et l'obscurité, ce qu'on appelle l'heure bleue, qui est un moment de préparatif quand on va faire une soirée astro. Voilà. Après, bon, bah voilà. Quand on est en photo, moi, j'essaie de faire de la photo. Là, le week-end dernier, j'ai pu faire de la photo en programmant une photo cadrée qui va durer toute la nuit. Et puis à côté, j'ai pu faire de l'observation à Dobson. Mm. Du coup, c'était super, ça permet de checker un peu la photo, voir si la mise au point a bougé ou pas. Voilà.
Si tu n'as qu'un télescope et que tu fais de la photo, tu ne peux rien faire d'autre.
Oui, si tu n'as qu'un seul optique, non, mais bien sûr. Ouais, il est dédié à ça.
Tu fais quoi toute la nuit? Tu regardes que tout ça
si
bien.
Si t'as la chance de raconter de.
Ou tu vas te coucher.
Tu vas te mettre au chaud.
Oui, c'est ça.
Un petit thé, et puis tu vas voir de temps en temps si tout se passe bien.
La plupart du temps, je suis en poste fixe, quoi. Donc. Ouais, je suis au chaud. La session est programmée. Le retournement au méridien, il se fait de manière automatique. Je viens de checker, hein, quand même. Mais oui, après. C'est ça, il y a des soirées où. Bon, le soir est bon, mais j'ai d'autres choses à faire, du coup.
Ouais.
Je lance la photo et puis je fais mes autres choses. Et après, il y a des soirées où voilà, on peut vraiment profiter de la qualité du ciel, donc regarder à l'œil nu, aux jumelles, avec un autre télescope. C'est assez agréable. Ouais, mais c'est vrai qu'en photo, c'est assez fastidieux parce que bon, on est à côté d'un télescope dans lequel on ne peut pas regarder. Donc voilà, ouais.
Mais on peut sortir des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu.
Ouais.
Oui, tu nous as pris quoi d'ailleurs ni,
Et bien là, j'ai fait, le week-end d'avant, j'ai fait Orion, la nébuleuse d'Orion, avec une focale de 600, donc c'est bien, c'est Orion un peu perdu dans l'espace, quoi. C'est avec un filtre à bande étroite, mais assez large quand même. Après, j'ai fait la nébuleuse de l'étoile flamboyante, à côté de Capella, dans le Cocher. Donc c'est pareil, à 600 de focale, là, je fais... C'est pas du grand champ, mais c'est pas non plus du très serré. C'est des nébuleuses en hydrogène, après, là, sur des filtres étroits. Donc, bon. J'ai à peu près 6 heures de pause sur chaque, donc je pense que ça va faire un résultat assez sympa. Et puis les dernières, c'était à côté des Gémeaux, au-dessus de la Rosette. Voilà, donc c'est à l'est de Orion, hein, pareil dans le ciel d'hiver, entre Sirius et Procyon, hein, mettons. Ouais. Hein. Et donc c'est nébuleuse du cône, voilà, appelée aussi l'arbre de Noël.
Ah oui, ok. Je connaissais sous ce nom. Ouais,
ouais, voilà, c'est assez remarquable. Donc c'est, ouais, c'est un objet qui se photographie sous plein de focales différentes, soit avec un très gros grossissement ou alors en champ large, un peu comme j'ai essayé. Il y en a qui font un champ très large aussi, en incluant la rosette. Mmh. Voilà, ouais. C'était un peu la reprise, là, de fin d'hiver, mais les conditions étaient tellement bonnes que... Voilà.
Oui.
Voilà, voilà.
Très bien. Et alors après, vient le moment du traitement des images.
Voilà, après, bon bah...
Là, c'est autre chose.
Voilà, au petit matin aussi, je fais. Dans une autre émission, on avait parlé un peu des photos de calibration. Donc je fais quand il fait jour avec un tissu blanc, ce qu'on appelle les flats, là, pour un peu définir quels sont les défauts optiques, où sont les poussières, le vignettage. Voilà, des défauts dus au miroir et au champ optique. Voilà, après, faut décharger les photos, ouais, faire le pré-traitement, l'assemblage. Et puis après le traitement, ouais, après il reste encore un petit peu de boulot, ouais. C'est sûr.
Merci.
Quelle aventure.
Ouais.
Plaisir.
C'est lors de la pause musicale.
Eh ben ouais.
C'est Rémi, je crois, qui a choisi le morceau.
Ouais,
je
laisse une spontanéité, un morceau de Pink Floyd qui s'appelle Wish You Were Here.
Remains mercifully.
Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
Yes, yes.
No, it is it.
I'm sure of it. Thank you.
so you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the war for a lead?
Vous êtes toujours dans l'étoile polaire. Et on va continuer avec Pierrick, qui va nous parler de recherche de vie extraterrestre, de contact. Donc, comment tu... Je te laisse présenter.
De recherche de vie extraterrestre.
Voilà.
Vie dans intelligente. L'espace. Mmh. Intelligente, oui. Alors, j'avais déjà parlé de ça il y a quelques temps dans une émission précédente. Et j'ai eu un super dossier dans Ciel et Espace, hein, je le dis... que j'ai lu avec grand plaisir et que du coup, comme j'aime bien être dans le plaisir, je me suis dit, tiens, je vais parler de ça. Parce qu'il y a eu des nouvelles choses quand même qui sortent, il y a plein de nouveaux trucs à parler. Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissez, mais la recherche de vie intelligente, c'est de vie extraterrestre intelligente, c'est un gros dossier quand même. Et c'est beaucoup SETI, l'organisme SETI qui parlait de ça, donc c'est Search... extraterrestre intelligence. Mmh. Enfin, je sais plus exactement, mais en tout cas, SETI, c'est l'organisme qui s'occupe de ça et qui a été créé il y a 60 ans, quand même.
Par un millionnaire, non, c'est pas une histoire comme ça.
Non, c'est Frank Drake, un chercheur qui a balancé une célèbre équation que je reviendrai dessus un peu après.
Ouais.
Et donc, depuis 60 ans, ils ont envoyé quand même des choses, ils ont cherché, écouté, bon, il n'y a rien. Il n'y a pas de réponse, il n'y a rien. C'est quand même ballot. Alors, est-ce qu'il n'y a personne?
Oui,
ouais,
c'est
hein.
possible.
C'est vrai. Et est-ce qu'on se pose les mauvaises questions? Est-ce qu'on cherche mal? Est-ce que,
c'est possible aussi.
Est-ce qu'on est infime? Est-ce qu'ils n'ont pas envie de nous parler parce qu'on est trop cons? Est-ce que, je ne sais pas, hein, bon, on peut se poser moult questions. En tout cas, tout ça, c'est la quête de Frank Drake, que ce chercheur donc, a créé le SETI et qui a posé les bases de cette recherche en posant une équation célèbre, l'équation de Drake, qui je la rappelle un peu là, parce qu'elle est quand même bon, ça reste des maths et de la physique théorique.
T'en avais parlé plus en détail avec Fred un
jour. Ouais, il y a eu une émission là-dessus, j'en avais parlé.
Mais rappelle-la nous quand même.
Ouais, quand même, elle est cool quand même.
Eh oui.
J'aime pas trop les maths, mais celle-là, je la trouve cool.
C'est ça.
Donc c'est N.
N, c'est le nombre de...
De civilisations.
Dans la galaxie.
Possiblement dans la galaxie, ouais. En fait, c'est un chiffre qui serait compris 0, il n'y en a pas, 1, il y en a.
Ah oui, d'accord.
Tu vois, c'est pas... Voilà. Égal, N égale. Donc R. Le taux de formation d'étoiles avec une durée de vie assez longue et à du coup accueillir une zone habitable pour une planète. Fois FP. Donc ce nombre d'étoiles avec des planètes, fois NE, des planètes avec de la vie, fois FL, dans laquelle la vie se développe, fois FI, une vie intelligente pour le coup, qui puisse émettre ou recevoir des émissions radio comme nous on sait faire, fois FC, une vie technologique détectable, oui c'est un peu différent, voilà, fois L, la durée de vie de cette civilisation. Donc ça a posé les bases de la recherche, de un peu voilà, comment on s'y prend, comment on fait. Vu l'immensité de la Voie lactée, la dernière, elle, la durée de vie de la civilisation est importante parce que même si une civilisation arrive à un niveau technologique
avancé,
comparable ou plus avancé, même si elle ne dure que 100 ans, en fait,
bon, on la verra jamais. Avoir de la chance pour...
Ouais. Donc voilà, c'est quand même une équation, bon, ça reste un peu du pipeau, quoi. Un peu, voilà, bon, c'est balancé comme ça, mais quand même, ça pose des bases.
Oui, c'est plus une expérience de pensée, un peu. Quoi.
Oui, ouais.
Plus que des vraies maths.
Il y a un certain nombre d'inconnus.
Ouais, voilà. Alors, les trois premières, maintenant, quand même, ça progresse quand même, parce que les trois premières inconnues, là, donc le R, le taux de formation d'étoiles avec une durée de vie assez longue, pour accueillir une zone habitable et une civilisation, etc. Et ben on l'affine quand même, à force depuis 60 ans quand même, il y a de plus en plus d'observations fines dans l'espace, donc on en sait un peu plus. Les étoiles avec planètes, depuis la découverte des exoplanètes, bon bah c'est pareil, on n'arrête pas d'en découvrir
de
partout.
Plus en plus, ouais.
94.
La première, oui.
94, oui. Et des planètes avec vie, il y en a une.
Pour l'instant.
Ouais. C'est ça, au moins ça. Donc ces trois-là, bon voilà, on commence à les affiner. Le reste, on n'en sait rien en fait. Le reste.
Le reste, c'est peut-être que de l'exposition.
Ouais, voilà, c'est que. Mais bon, c'est déjà intéressant d'en discuter et d'essayer de savoir les durées de vie des civilisations. Ça, par exemple, c'est complètement d'actualité. Est-ce que. Il y a eu beaucoup de recherches là-dessus et souvent on arrive à la conclusion que les civilisations ne durent pas très longtemps. Même dans notre histoire terrestre, on voit que celle qui a duré le plus longtemps, c'est l'Égypte. Elle a duré 5000 ans, quelque chose comme 3000 ans. C'est assez court dans le temps astral. Et donc on peut clairement se poser la question de durée de vie des civilisations.
Tout à fait.
Et donc, voilà, à partir de cette équation posée dans les années 60, maintenant, il y a quand même des nouvelles choses qui apparaissent, notamment sur la vie, en fait. C'est quoi la vie? Quelle vie? Est-ce que c'est une vie intelligente semblable à la nôtre? Est-ce que c'est une vie, par exemple, je pense à des organismes qui sont capables de résister sur des milliards d'années, mais qui ne communiquent pas ou qu'on ne sait pas communiquer avec eux, mais c'est peut-être aussi de l'intelligence finalement. Voilà,
tu parlerais de sortes d'animaux, quoi.
Des algues ou des bactéries.
Ouais, des plantes.
Des végétaux. Ou des végétaux, ouais, qui sont capables de résister. Je pense au ginkgo biloba, cet arbre qui a résisté à plein de cataclysmes.
Mais qui ne sait pas envoyer une émission radio.
Mais qui ne sait pas communiquer. Peut-être qu'il sait faire, mais qu'on ne comprend
pas. En radio.
En radio, en tout cas, ouais. Donc voilà. Et donc il y a des études qui sortent un peu et qui disent que la civilisation pourrait difficilement se développer au centre galactique parce que
c'est trop dense en étoiles.
C'est trop dense, c'est soumis à beaucoup de catastrophes galactiques, type supernova, collision, parce que c'est dense comme tu dis, du coup ça serait plus compliqué là d'avoir le temps que la vie se développe.
Ouais.
Et
le temps ne doit sûrement pas être le même non plus.
Peut-être.
Le centre galactique.
Et que du coup, ça serait plus en périphérie de la galaxie, un peu comme nous, où la vie se développerait. Et que du coup, ça fait une zone plus vaste qu'un centre, qu'un noyau. C'est plus petit que toute une périphérie. C'est beaucoup plus grand, quoi. Donc, par exemple, la Terre, enfin, notre système solaire, il est à 26 000 années-lumière du centre galactique. Voilà. Et ils pensent que la vie peut se développer à 13 000 années-lumière du centre galactique. C'est là où les zones sont plutôt stables et que ça pourrait prendre le temps de se développer. La vie sur Terre, elle a mis 3,8 milliards d'années à se développer. Elle a commencé il y a 3,8 milliards d'années. Donc c'est quand même des échelles énormes. L'être humain, il a 3 millions d'années, par exemple. Donc là, tout de suite, ça réduit vachement. Le premier signal radio, c'était en 1895, mais c'était un signal très faible. Donc c'était il n'y a vraiment pas longtemps à l'échelle galactique. Et on pense qu'on est détectable à 200 années-lumière à la ronde autour de notre système solaire. Donc c'est pareil, ça c'est peu en fait, c'est très peu comparé à la galaxie. Voilà. Et après, il y a toute une partie aussi où on se pose la question, est-ce qu'on est observé? Parce que si nous on est capable d'observer, peut-être que les autres aussi, ils sont capables de nous observer. Et du coup, deux chercheurs se sont demandé depuis quelle étoile la Terre pouvait être observé en train de passer devant le Soleil. Comme nous, on observe des méthodes de transit pour détecter les exoplanètes, eh ben on pourrait faire de même à l'inverse, en fait. D'essayer de trouver les étoiles qui seraient susceptibles de nous voir passer devant le Soleil et donc de nous détecter. Bon, un transit, c'est une baisse d'intensité. Par exemple, si la Terre elle passe devant le Soleil et qu'on est bien placé en face sur une étoile, c'est une baisse d'intensité du Soleil de 0,01%. Donc c'est pareil, il faut être capable de le détecter.
C'est ça, parce que les exoplanètes que nous on détecte par la méthode du transit, la détection du transit, c'est des géantes gazeuses plutôt.
C'est des grosses planètes.
C'est des grosses planètes pour que justement le faiblissement du signal soit conséquent, détectable.
Et oui. Alors plus les méthodes d'observation s'affinent et plus on affine ça, mais voilà,
C'est au nombre de pixels.
C'est pas rien. Et en plus, ça, c'est pendant quelques heures, une fois par an.
Oui.
Donc, voilà, c'est pas grand-chose. Et il y a le satellite Gaïa, dont j'avais déjà parlé, qui réalise une cartographie de notre espace proche à moins de 300 années-lumière, quoi. Donc, c'est vraiment autour de nous.
Le quartier.
Le quartier, oui. Je rappelle, la Voie lactée, c'est 100 000 années-lumière.
De diamètre.
De diamètre. Ouais. Donc voilà, 36 années-lumière, voilà, c'est à côté. Qu'est-ce que j'ai dit
Gaïa.
Ah oui, Gaïa.
Gaïa.
Donc à moins de 300 000 années-lumière, donc elle a fait une belle cartographie de toutes les étoiles qu'il y a. Apparemment, il y en aurait 5 000. Et il y aurait 428 mondes où il y aurait une zone habitable. Ah oui, pardon. Donc je reviens à ces chercheuses là qui se sont demandé par la méthode du transit, ouais, de quelles étoiles on pouvait nous voir. Eh bien, ça ferait 428 endroits, 428 étoiles, où on pourrait observer ce transit passé.
D'accord. Dans la proximité.
Dans la proximité de ce que le satellite Gaïa a trouvé.
Okay.
Et donc, à partir de là, l'idée, c'est de cibler des messages radio puissants à ces astres-là, qui seraient susceptibles de nous entendre et de nous observer. Donc voilà, donc ça c'est les nouvelles recherches un peu qui sont en cours de développement. C'est que pendant 3-4 ans, là, ça s'appelle METI International, et ils vont envoyer une centaine de signaux sur différents mondes proches de nous, plus ou moins accessibles, avec des exoplanètes qu'on pense que similaires à notre planète, quoi, qu'on pense que la vie peut se développer.
C'est ça, c'est en fonction de la période de révolution et
oui,
l'éloignement avec l'étoile aussi qui définit si une planète elle peut être habitable ou pas. Si l'eau, en tout cas, elle est à liquide.
Oui, ouais, selon le seul critère qu'on connaît, c'est-à-dire nous.
Bien sûr.
Sachant qu'il peut sûrement y en avoir d'autres, mais on ne les connaît pas, donc c'est difficile de faire... Voilà. Et c'est un peu des cartes postales interstellaires, ils appellent ça. Donc, j'ai trouvé le terme sympa... d'envoyer des petites cartes postales, et ils répètent le message deux fois. Comme ça, s'ils nous captent, ils se disent pas que c'est un problème de transistor. Le premier coup, ils se disent ça, puis le deuxième coup, ils disent « Ah, il y a peut-être un truc.
Ouais. »
Donc voilà, et puis du coup, là, il y a toute une discussion autour de « Est-ce que c'est vraiment... est-ce que c'est vraiment intelligent d'envoyer des signaux comme ça ? On ne sait pas sur qui on va tomber. » On ne sait pas qui va décrocher. Ils sont méchants, ils sont gentils. Qu'est-ce qu'ils vont faire de nous ? Ils vont nous réduire en esclavage.
Oui, il y en a qui pensent que c'est se mettre en danger. Ouais,
exactement.
De se faire repérer.
Ouais, ouais. Et qui voudraient mieux rester discrets. Bon. Chacun pense bien ce qu'il veut. Voilà. Et donc, je voulais faire un petit récap aussi de tout ce qui a été fait depuis les années 70, là, pour envoyer des messages aux extraterrestres. Donc si... La première... Alors, il y a eu des sondes spatiales et des signaux radio aussi.
Oui.
Donc,
oui, il y a les sondes avec les pionniers, les voyageurs.
Voilà, il y a les pionniers 10 et 11 qui sont partis dans l'espace pour un moment. Hein. Pionnière 10, elle va croiser Aldébaran dans 2 millions d'années. Pionnière 11, elle va croiser Lambda Aquila dans 4 millions d'années. Voilà, c'est des échelles là. Bon, on ne sera plus là pour y voir. Par exemple, le message d'Arecibo, donc très connu de Frank Drake, là, que je parlais avant, qui a envoyé un message dans M13. Donc, c'est un amas globulaire très dense dans la constellation d'Hercule. Il l'a envoyé là en se disant bon, bah là, il y a une concentration d'étoiles. Et du coup, c'est là peut-être où il y aurait le plus de chances. Qui est quelqu'un qui reçoive quelque chose.
Ouais.
Donc il a décidé de cibler ça.
Et dans
25 000 ans, ça reviendra.
S'il y a une réponse, c'est dans 25 000 ans.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Donc c'est quand même beaucoup plus rapide que les sondes, dans tous les cas.
Ah bah oui. les signaux radio, ils vont à 300 000 km/s, la vitesse de la lumière. Et les sondes, elles vont à 17 km/s. Donc on en est loin, ouais. Donc après, il y a les sondes Voyager 1 et 2, qui, elles, sont parties aussi dans l'espace. Et qui, pareil, Voyager 1, elle va passer à 1,7 années-lumière d'une petite étoile dans 42 000 ans. Bon. Et Voyager 2, pareil, à 1,7 années-lumière de l'étoile Ross dans 40 000 ans. Donc c'est pareil... C'est un peu lointain comme... Du coup, dans les années 80, ils se sont dit peut-être qu'on... Ça serait bien de cibler des choses plus proches, qu'on ait éventuellement une réponse dans une vie humaine, quoi. Donc ils ont envoyé un message vers Altaïr, et le retour aurait pu se faire en 2017.
Parce qu'Altaïr, c'est 12 années-lumière, non ?
Alors Altaïr... ouais. 17 ans de voyage.
Ah, 17. J'ai hésité entre 12 et 17, même.
Ouais. Ouais. Bon, voilà, c'est... Mais voilà,
oui, ça, donc voilà, ça peut se faire en une vie, un aller-retour, voilà. En 34 ans. Ouais.
Et du coup, en 2017, bon, bah, il n'y a pas eu de réponse, ou alors on nous l'a caché. et du coup, après, il n'y a pas grand-chose, mais en tout cas, depuis les années 2000, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de programmes qui envoient des informations radio. Alors, on en parlait, mais je ne sais pas exactement ce qu'ils envoient. Par exemple, le message d'Arecibo, là, le premier message à être envoyé, là, c'était un message où ils avaient indiqué les nombres de 1 à 10, les numéros atomiques des éléments, par exemple l'hydrogène, ça c'est l'élément le plus qu'il y a le plus dans l'espace, donc ils ont mis ça, ils ont mis un visuel humain, une carte du système solaire, une tranche d'ADN, voilà, des choses comme ça.
Oui, celui-là, le message d'Arecibo, c'est une sorte de, pas de morse, mais ça fait des 0 et des 1, et tu mets ça sur une grille de je sais pas, 10 par je sais pas combien, et tu fais comme ça, tu colories quand c'est 1 ou pas, et à la fin ça peut t'écrire des trucs, ça dessine un humain. Ouais, tout, ouais. Ouais. Du coup, il faut déjà que les mecs qui le reçoivent se disent je vais mettre ça dans des colonnes.
Ouais, qu'il y ait moyen d'interprétation.
Ouais.
Ça aussi, c'est très dur, ouais, la communication, comment tu communiques.
Alors, est-ce que c'est des phrases, chaque ligne c'est une phrase, il y a des pauses, hein, enfin bon, j'imagine qu'ils ont réfléchi quand même un petit peu, mais.
Bah ouais, mais.
C'est toujours un pari, quoi.
Dans Voyager, bon, oui. Les dessins,
oui,
le disque et
les pionniers et Voyager.
Ouais. Les schémas, ouais. Encore faut-il les comprendre.
Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, on voit que.
Comme dit Alexandre Astier dans l'exoconférence, on envoie un truc à des extraterrestres, tu files ça à quelqu'un dans la rue, il comprend déjà pas ce qu'il y a dessus, alors que ça vient de son espèce. Quoi.
Et ça me fait penser au film Premier Contact.
Et oui,
où ils essayent de communiquer, mais en fait, c'est très compliqué, ils n'y arrivent pas. Quoi. Voilà, donc depuis les années 2000, il y a beaucoup de choses. Un programme japonais qui envoie des signaux vers Spica, ça reviendra en 2247, s'il y a une réponse, hein, bien sûr. Un programme russe qui envoie des dessins, des textes, des vidéos, des chansons dans le Cygne et dans le Sagittaire, ça reviendra en 2036 et 2069. Un programme russe aussi dans la Grande Ourse qui reviendra en 2047. Un autre chose pour la chanson, c'est quoi ? Pour la chanson des Beatles qui reviendra en 2439. Voilà, il y a plein de choses. Là, celui-là, dans le Bélier, dans la Baleine, qui reviendra en 2022-2024. Enfin, s'il y a une réponse, hein,
oui,
chaque fois je dis ça, c'est la date théorique de... S'ils répondent direct dans la foulée qu'ils ont reçu, voilà.
Qu'ils comprennent vite et qu'ils répondent tout de suite.
Ça vient d'où ce truc, on le renvoie, voilà. Et en tout cas aussi, je voulais parler de... En fait, notre environnement proche, là... Donc, je sais plus, il y a combien, 5000 étoiles, là, ou plus, je sais plus.
Tu disais 5000 étoiles à moins de 36 années-lumière de nous.
Non, mais je crois que c'est plus que ça, mais... Bon, je sais rien, je sais plus. On brouille sur les chiffres. Mais en tout cas, c'est vraiment infime comme partie de la Voie lactée.
Bien sûr, oui.
On estime à plusieurs milliards d'étoiles.
Plusieurs milliards d'étoiles, et même si on en trouve 10 000 ou je sais pas combien, c'est rien du tout, quoi. Donc c'est ça aussi qu'il faut remettre en perspective, c'est que même s'il y a des vies extraterrestres dans la Voie lactée,
pour qu'elle soit proche, il faut encore...
Pour qu'ils nous entendent, ne serait-ce que ça, en fait, les distances sont tellement énormes. Et nous, on émet depuis tellement peu de temps, depuis une centaine d'années, ils doivent capter un espèce de brouhaha infernal
oui, parce que c'est ça,
de matchs de foot et de débats politiques.
Et des missions sur Radio Dio.
Ouais.
Ouais, de la même manière que nous autres aussi, on capte des messages qu'on ne comprend pas. avec venant de, oui, de certaines régions du ciel, quoi. Il y a, bon, il y a des messages, il y a des interférences, des ondes radio qui sont analysées, quoi, tout ce qui est les pulsars.
Oui, des fois on sait dire, ouais, on a déjà vu ça, on pense que c'est ça, machin, mais des fois c'est plus flou, ouais.
Et ouais, il y a des messages répétitifs qu'on ne sait pas interpréter, quoi. Mmh. C'est intéressant, mais on n'a pas les réponses, quoi.
Ouais.
Et ouais, pour l'instant, c'est pas vrai. On reçoit quelques trucs, mais voilà, c'est encore hypothétique.
Oui, ça peut très bien être naturel, un phénomène naturel quelconque.
Comme des quasars,
qu'on connaît pas encore. Oui, voilà,
qui émettent des ondes.
Des choses qu'on connaît, les pulsars, les quasars.
Il y a eu récemment un message qui est arrivé qui était à une fréquence très très basse, quoi, jamais observée.
Ah oui.
Que, par rapport à un quasar ou un pulsar, je me souviens plus la proportion, mais c'était un message, enfin, une onde toutes les tant de secondes, je sais plus, c'était pas 18 secondes ou quoi. C'était comme de la très très basse fréquence, quoi.
Ouais, j'ai lu ça il y a quelques semaines. Là,
oui, hein, voilà, ouais. C'était assez récent.
Qui venait du centre de la galaxie. On sait pas encore ce que c'est.
On va su analyser. Ouais.
Là, je retrouve le chiffre, c'est 8000 étoiles à moins de 100 années-lumière.
Okay.
Donc voilà, comparé aux milliards d'étoiles.
Et aux 100 000 années-lumière.
Et aux 100 000 années-lumière de la galaxie. Voilà. Et ça, c'est juste notre galaxie, sachant qu'il y a des milliards de galaxies.
Qu'on commence à cartographier aussi.
Ouais,
ça,
ouais.
C'est intéressant, ça.
Ouais, j'adore de voir des cartes. Ouais. J'adore les cartes terrestres. Mm-hmm. Et là, de voir des cartes du ciel de notre environnement proche, je trouve ça génial. Et dans notre environnement proche, là, de ces 8000 étoiles qui sont proches de nous, en fait, il n'y en a pas beaucoup des connus, quoi.
Qu'on utilise dans les constellations.
Ouais, il y a Sirius, okay, celle qui brille le plus, elle n'est pas très loin.
Il y a Altaïr.
Altaïr, Procyon.
Procyon, ouais.
Après, les autres.
Vega.
Ah oui, il y a Vega. Il y a 61 du signe, celle-là, on la voit bien quand même.
Après, on a dans le ciel qu'on voit à l'œil nu, il y a beaucoup de géantes gazeuses, de géantes rouges, ou d'étoiles géantes en tout cas,
et
du
sont
coup,
très
qui
loin.
Peuvent être beaucoup plus loin.
Très
voilà.
Loin, ouais, ouais.
Comme toutes les quatre étoiles d'Orion, Betelgeuse, Bellatrix, Rigel, c'est toutes des super géantes qui sont du coup très très loin.
Ouais. Et, ouais.
C'est vrai qu'on
et qui brillent plus. Voilà, pareil.
Elles sont à plus de 100 années-lumière.
Ouais. Et ben voilà, elles sont super loin.
Et les étoiles de la Grande Ourse sont pas très très loin. Alliot, Dubé, tout ça, c'est pas très très loin.
Ok. C'est ça aussi, nous on voit notre voûte céleste, on a l'impression que c'est un même plan, mais en fait, absolument pas. Quoi. C'est
un point de vue.
Ouais, ouais. Ouais, chaque étoile a une distance vraiment différente de l'autre. Quoi. Et Alpha du Centaure, là, qui est l'étoile la plus proche qui a de nous, qui est un peu 4,5 années-lumière, là, elle n'est pas évidente à observer.
Elle est dans l'hémisphère sud.
Oui.
Mais même là-bas, elle n'est pas évidente à observer.
Elle
saute pas aux yeux.
Ouais, voilà.
Ouais.
Dans les étoiles à proximité, il y a la bêta de l'Hydromal. C'est une étoile qu'on sert pour aligner dans l'hémisphère sud.
Oui.
C'est une des dernières étoiles proches du pôle sud céleste.
Ah ouais.
D'accord.
La bêta de Lyde, dans l'octant.
Ok. Et là, dernièrement, ils ont envoyé un message. En 2009, ils ont envoyé un message à l'étoile Tigarden, qui a 12,5 années-lumière. Et sur cette étoile, on pense qu'il y a deux planètes de masse terrestre qui tournent autour de cette naine non-vue.
Les cibles de se précisent quand même.
Ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire.
Ça, ouais, les tous resserrent, quoi.
C'est que, voilà, ils ont envie d'envoyer et qu'il y ait des réponses éventuelles plus rapidement. Et comme maintenant, peut-être, on sait un peu plus où cibler, bien que la vie qu'on connaît sur Terre n'a peut-être rien à voir avec la vie peut se développer ailleurs. Pas forcément besoin d'oxygène, d'eau liquide, en fait, on n'en sait rien. Voilà. Donc, en tout cas, depuis toutes ces choses-là, il n'y a pas de réponse. En 93, par exemple, parmi 60 milliards de bandes spectrales analysées, il n'y a eu que 37 petits signaux qui s'élevaient un petit peu au-dessus du seuil de suspicion. Et qui s'avéraient en fait être des défauts de machine, des
interférences.
Ouais, des interférences, des, voilà. Enfin, tu vois, sur 60 milliards, 37 petits soubresauts, ça fait pas lourd. Et je voulais dire aussi que ces programmes, ils sont beaucoup financés par le privé. C'est pas beaucoup les agences spatiales qui financent ça.
Ouais.
Et par exemple, là, c'est un milliardaire russe qui, depuis 2015, allonge les billets pour faire que ses programmes continuent, quoi. Et notamment, il a fait Breakthrough Listen, là. C'est donc là, c'est beaucoup d'argent pour libérer du temps pour des antennes et des télescopes, des gros télescopes, quoi, hein. Des grosses antennes qui t'achètent du temps, en fait, et tu fais ce que tu veux avec. Et donc, voilà, ils ont accumulé 10 000 terabits de données et bah, y a rien. Il y a aussi Allen, le Allen Télescope. Donc, de Allen, c'est cofondateur de Microsoft, qui a un télescope à son nom parce qu'aussi il allonge les billets. Il y a 42 antennes de 6 mètres qui sont spécifiquement dédiées à ça, que à ça. Et bon, pareil, ils ont ciblé 93 000 astres avec 2000 exoplanètes et bon, bah, il n'y a rien, quoi. Là, c'est plus de l'écoute.
Oui.
C'est, on pointe pour écouter. Mais c'est pareil, ça se trouve, il y a des civilisations qui sont dessus. Mais comme elles émettent depuis pas assez de temps pour que ça arrive à nous, et finalement, bah, on ne sait pas, quoi. Mais voilà, tout ça.
L'avantage de la radiotélescopie, c'est que on peut la pratiquer de jour et quand il y a des nuages.
Ouais,
c'est vrai.
Ça t'intéresse du coup?
Bah ouais, j'avais vu des images de télescopes en Angleterre, dans des endroits par exemple voilà, où c'est assez humide, c'est beaucoup de perturbations. Mais
des trucs amateurs
Non, des trucs pros.
Ah ouais.
Mais ça se fait, il y a des radio-astronomes amateurs.
Ouais, ah ouais. Aussi, ouais.
Ils vont te montrer des trous noirs, des trucs du coup.
Des grésillements,
voir, quoi.
Ouais, écouter le soleil,
oui, comme nous disait Fred.
Ouais. Moi, ça m'intéresse, je connais pas du tout.
Et voilà, c'était ça mon délire de cette émission. Et je vais juste finir par un truc qui me perturbe.
Dis-nous tout.
C'est que ils sont en train de découvrir dans la Voie lactée beaucoup d'étoiles ou même de planètes qui errent, des planètes errantes. D'accord, des étoiles errantes qui sont pas raccrochées à quelque chose, quoi, qui ont une orbite complètement...
Ils ne sont pas dans un système solaire, stellaire.
Ouais, et qui ont des orbites complètement farfelues par rapport au reste.
Pour dire, c'est un pléonasme du coup d'une planète errante. Parce que planète en grec, ça veut déjà dire astre errant.
Ah ouais.
Ils voyaient dans le ciel tous les astres qui bougent pas, toutes les constellations, puis ils ont voyé qu'ils bougeaient dans ces constellations.
Ah oui.
Donc ils ont appelé ça les astres errants, et en grec, planétès.
Voilà.
Okay. Donc maintenant, c'est des astres errants.
Ils sont vraiment paumés, les mecs. En tout cas, voilà, on voit ça, on peut se poser la question. Bah, c'est quoi en fait? Est-ce que c'est une planète? Est-ce que c'est... Voilà. Chacun est libre.
C'est l'étoile de la mort.
Ouais, exactement. Chacun est libre de voir ce qu'il veut, mais en tout cas, on en détecte de plus en plus et on ne sait pas trop ce que c'est. Comme aussi des espèces de cigares géants qui est venu nous rendre visite. Là.
L'astéroïde tout allongé.
Oui, voilà.
Qui est venu d'un autre... système stellaire, je trouve.
Ouais. Qui est venu, qui est reparti direct. Voilà, bon, après, on peut rien en dire, mais...
Oui, c'est des masses qui, forcément, voyagent, sont attirées par quelque chose.
Ont été éjectées par quelque chose.
Ouais, sont déviées,
dans des catastrophes.
Voilà, c'était finir sur un petit mot de magie.
De mystère.
Mystère,
ouais.
Merci, Pierrick.
Merci, plaisir.
Merci Rémi, et puis on va clore là l'émission si vous n'avez rien à rajouter.
Tout va bien.
On se retrouve dans 3 semaines. bientôt.
Salut.
Ciao.